BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Morris.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. Ravi de passer ce moment avec vous aujourd'hui. On parle d'hypercroissance et de la manière dont ça se pilote depuis le siège du DRH avec Alexandra Diez chez Aircall, la licorne spécialiste de la téléphonie dans le cloud. Dans cette émission, Jeanne des avocats en droit du travail répond aussi aux questions qui nous sont adressées par nos auditeurs.
Écrivez-nous vous aussi pour qu'on y réponde à l'adresse happyboulot@bfmbusiness.fr. Aujourd'hui, c'est Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat, qui va nous dire s'il existe une bonne façon de négocier son départ.
Vous ne partez pas, vous, Jeanne.
Non.
Vous restez parce que le programme est encore chargé. Faire carrière, oui, mais avec ou sans études? C'est la question qu'on posera dans notre focus avec, d'un côté, un self-made man et face à lui, un patron bardé de diplômes. Sans oublier, en fin d'émission, la carte blanche cette semaine de Yannick Merciris qui va faire plaisir aux dyslexiques. Vous verrez, c'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Grandir et conquérir le monde, est-ce que c'est pas là finalement le rêve de toute entreprise? Pour y parvenir, encore faut-il réussir à accompagner la croissance de sa boîte. Et ça, c'est votre métier, Alexandra Diez. Bonjour.
Bonjour Erwan.
Merci d'être sur le plateau d'Happy Boulot avec nous sur BFM Business. Vous êtes la DRH d'Aircall, la licorne française spécialiste de la téléphonie dans le cloud. Je vais donner 5 chiffres pour définir un peu ce que c'est qu'Aircall. C'est 10 ans d'existence, 226 millions de dollars levés, 17 000 clients, 700 collaborateurs, 40 nationalités. On se dit que vos journées ne doivent pas être de tout repos, hein, quand même, depuis votre siège de DRH, là, chez Aircall.
Oui, tout à fait. Merci d'abord de cette invitation.
Avec plaisir.
Donc, l'hypercroissance, c'est exaltant.
Oui.
Mais par contre, c'est un vrai challenge pour les équipes RH.
On y vient tout de suite, parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'une entreprise comme la vôtre, une licorne de la tech française, donc valorisée plus d'un milliard d'euros, elle veut grandir très vite. Et donc, l'hypercroissance, ça implique beaucoup de recrutement. Vous avez été confronté, vous, à cette thématique-là. Comment est-ce que ça se gère?
Tout à fait. Alors, le challenge est vraiment immense. Par contre, comme je l'ai dit, extrêmement exaltant. Mmh. Par contre, il est vraiment important de mettre en place les bons outils pour recruter vite, recruter bien et les meilleurs talents sur le marché.
Des outils numériques?
Tout à fait. Oui. Des outils pour évaluer, en fait, nos candidats, suivre nos candidats. Ça, c'est extrêmement important de pouvoir bien structurer au préalable.
Aujourd'hui, on ne s'en passe plus de ces outils-là.
Tout à fait.
Typiquement, enfin, vous travaillez avec combien d'outils numériques, de logiciels, de solutions pour vous aider à bien faire ces recrutements?
Alors, on va dire qu'on a un outil qui va centraliser l'ensemble des candidatures. Un outil qui est, également va nous permettre d'assesser les compétences de nos candidats. Au préalable, des compétences qui ont été définies en interne pour chacun des rôles. Et puis, ce même outil va nous permettre de répondre aux candidats et de suivre les interviews ensuite avec les managers.
Aircall, c'est une entreprise qui a 10 ans. Vous cherchez des collaborateurs qui sont aussi juniors. On sait que dans la tech, souvent, c'est une première expérience. C'est une difficulté supplémentaire pour un DRH d'avoir à recruter ce type de profil?
Alors,
quand on est en hypercroissance et qu'on cherche non pas 1, 5, 10 candidats, mais parfois plusieurs centaines.
Tout à fait. Alors oui, c'est un challenge. Et ce qui va être très important, c'est de bien travailler notre proposition de valeur aussi en interne pour attirer nos candidats. Donc ce sont vraiment tous les avantages qu'on va pouvoir proposer à nos employés. C'est également travailler beaucoup sur la fidélisation des équipes. Au préalable sur l'intégration, et donc nous co-construisons en fait des programmes d'intégration avec les équipes opérationnelles, et ça c'est vraiment clé.
Ça ressemble à quoi? Enfin, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'onboarding, mais vous avez raison d'utiliser le français, on adore ça. À quoi ça ressemble une intégration chez Aircall quand on arrive dans l'entreprise?
Tout à fait, donc une intégration c'est un mois d'intégration. Ah oui. Au préalable. Donc ensuite, vous avez des sessions sur les produits, sur la vente, sur la culture d'entreprise également, sur le client. qu'est-ce qu'on entend par un client chez Aircall. Et donc, vous suivez ces modules de formation et c'est entrecoupé également avec des formations fonctionnelles, donc au sein des départements.
Un mois d'intégration, ça je vous assure que pour certains salariés qui nous écoutent, ça va leur donner envie parce que parfois on est propulsé sur un poste en 4-5 jours et ensuite on est un petit peu laissé, ça arrive souvent encore. Il faut réussir à développer les compétences aussi, Alexandra Diez, parce que pour ceux qui sont là peut-être depuis le début, ils ont besoin aussi de sentir qu'ils ont encore leur utilité dans ces moments d'hypercroissance, qu'on a encore besoin d'eux, qu'on a aussi envie de les faire évoluer.
Oui, tout à fait. Et donc chez Aircall, et nous avons reçu d'ailleurs un prix, le Talent Award de France Digital sur ce qu'on appelle Inside Discovery. En fait, c'est une méthodologie qui a été créée sur mesure en interne, qui donne des outils de communication entre les équipes. Donc on a déployé ça à travers le monde, puisqu'on est une structure internationale, et nous avons eu 100% de satisfaction.
Et donc, il faut former.
Il faut former. C'est extrêmement important.
Ouais. On le réclame aussi du côté des salariés, cette formation.
Tout à fait. Et nous investissons sur des outils, en fait, numériques, pour que la formation soit vraiment continue et de manière autonome.
Est-ce qu'on a le temps, quand on est dans une croissance comme la vôtre, chez Aircall, de bien structurer l'entreprise, de prendre du recul pour se dire, oui, là, on a mis les bons éléments sur les services qui en ont besoin, ou non, il faut réajuster. Comment on gère aussi ces questions-là ?
Tout à fait. En fait, il est toujours important de prendre un peu de recul, de reprendre l'ensemble des process que l'on a mis en place.
Parce que quand on a la tête dans le guidon, on a du mal à prendre du recul, non ?
Oui, un petit peu, mais...
On s'isole entre RH pour réfléchir à... Voilà, c'est ça ?
On fait ça, on s'isole, on définit des priorités. Donc ça, mon rôle, c'est vraiment de définir une stratégie très claire et des priorités. Et une des priorités aujourd'hui pour nous, c'est de s'appuyer sur les fondations que l'on a mises en place, donc nos outils, et de revoir à chaque fois si on est performant, si on peut améliorer en fait le process.
Il nous reste une minute. Alors pour mieux savoir quel DRH vous êtes, eh bien Paul va vous amener tout de suite la boîte du DRH. C'est la nouveauté depuis le début de la saison. Je vous invite à piocher deux papiers. Alors, ce sont des phrases qu'il faut compléter spontanément. Voilà, qu'est-ce que vous mettriez à la place des points de suspension qu'il y a sur ce petit morceau de papier ? Bon, je vous laisse la lire.
Dans ma boîte, on me reproche de...
Ah, pas facile.
Très compliqué.
Ouais.
D'être très...
On fait des critiques parfois,
On a certaines critiques, d'être peut-être encore plus au cœur du business.
Ouais.
Ça va être très important, oui.
Allez, on prend un dernier.
Dans ma boîte, l'intelligence artificielle...
Ah oui. Ah, on l'a eu il y a quelques jours. Ouais. C'est votre avenir. C'est déjà présent.
C'est présent.
Ouais. Et c'est en développement.
Et c'est en développement.
Ok. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci Alexandra Diez, DRH d'Aircall. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, Jeanne appelle notre expert pour les réponses à vos questions.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on appelle tout de suite Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat, avec cette question d'un auditeur. Valérie, y a-t-il une bonne ou une mauvaise manière de négocier son départ ?
Alors non, désolé de vous décevoir, il n'existe pas de meilleure approche pour négocier son départ. Et surtout, cette approche ne peut pas être standardisée ou standardisable. Ou plutôt si d'ailleurs, il en existe une et une seule, la vôtre. Elle dépend de paramètres divers et variés qui sont professionnels, personnels, financiers, contextuels, évidemment juridiques. Elle dépend de l'entreprise dans laquelle vous êtes, depuis combien de temps vous y travaillez. Et bref, il faut évidemment réfléchir à ces raisons pour lesquelles vous souhaitez ouvrir la négociation d'un départ et ne pas démissionner. Les raisons immédiates et les raisons plus profondes. Et surtout, d'identifier par anticipation les alternatives qui s'offrent à vous si la négociation n'est pas possible. Et donc, je l'ai déjà dit, je le répète, la réflexion préalable à la mise en œuvre d'un projet quel qu'il soit et les raisons pour lesquelles on souhaite négocier son départ doivent être analysées et comprises pour maîtriser les enjeux de la négociation et pour être accompagné par le professionnel le plus adapté.
Merci Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat. Continuez à nous écrire sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
Bon, on aimerait bien savoir dans Happy Boulot quelle est la recette magique pour faire carrière. Y en a-t-il seulement une d'ailleurs? Est-ce que c'est en étant par exemple bardé de diplômes ou à l'inverse en étant un self-made man, un homme qui se fait tout seul? Nous sommes allés chercher les deux profils qui correspondaient. Ils sont autour de moi pour voir comment ils ont réussi, hein, chacun avec leurs atouts. Bonjour David Martins Gonsalves.
Bonjour Erwan.
Merci d'être là. Vous êtes le cofondateur de Notify, spécialiste de la relation client. Le chef d'entreprise bardé de diplômes, c'est vous. Et vous êtes face à Arnaud Brion. Bonjour Arnaud.
Bonjour Erwan.
PDG de Finsbury, spécialiste de la chaussure chic pour hommes. Et vous êtes donc celui qui n'est pas bardé de diplôme. J'aimerais commencer par vous, Arnaud, parce que d'abord, les chefs d'entreprise qui n'ont peut-être pas fait des hautes études, mais ils existent, c'est quand même la preuve, on le dit beaucoup sur BFM Business, c'est vrai qu'on réussit aussi sans être passé par les grandes écoles, les universités américaines prestigieuses. Vous en êtes la preuve.
Je suis la preuve, voilà, pour dire qu'effectivement on peut y arriver sans faire de grandes études et sans forcément avoir de grandes formations.
Racontez-nous votre parcours.
Alors mon parcours est un peu atypique puisque je suis arrivé dans l'entreprise à l'âge de 17 ans comme vendeur, donc extra alors que j'étais étudiant.
Donc vous vendez des chaussures.
Je vendais des chaussures, voilà, tout simplement. Et donc c'était une rencontre aussi avec les deux fondateurs de la marque. Mais j'étais un peu fâché avec les études. Pour tout vous dire, j'étais même en échec scolaire. Et ce qui fait qu'à 18 ans, j'ai accepté un poste de vendeur, et de faire carrière dans l'entreprise.
C'était quoi à l'époque? C'était par désespoir de cause ou c'était pour... Alors, vous disiez vraiment, j'ai envie
Non, déjà j'avais envie et surtout j'avais une appétence particulière pour le commerce, pour le retail et pour les beaux produits que on vendait chez Finsbury. Donc ça m'a donné une vision d'avenir et donc j'ai décidé de m'engager très modestement comme vendeur, donc en démarrant, en partant de rien, sans diplôme.
Ça commence comme ça, et puis en fait vous gravissez les échelons.
Voilà, donc ça commence comme ça, et je fais mon petit parcours modèle dans l'entreprise. Donc à 20 ans, je deviens donc directeur d'un magasin, avec une petite expérience managériale et une petite expertise finalement quand même dans le métier. J'étais animé aussi par un désir quand même d'entreprendre. Donc j'avais la niaque, clairement. Et à 25 ans, j'ai proposé au patron de l'époque de devenir le premier franchisé de la marque.
Donc c'est vous qui prenez l'initiative?
C'est moi qui étais effectivement leader de cette proposition. Ouais. Et sauf que j'avais pas un sou et que j'avais juste un peu d'expérience, beaucoup d'audace et j'étais prêt à délivrer les efforts qu'il fallait. Ouais. Mais voilà, donc c'était quand même le parcours du combattant.
Bon, et on avance dans le temps. Finalement, en fait, tout simplement, vous décidez de racheter l'entreprise.
Alors à 25 ans, je deviens le premier franchisé de la marque, effectivement. Je développe un certain nombre de franchises à mon actif, donc 7 gros établissements, et je deviens plus gros, effectivement, quelques années plus tard, je deviens plus gros que mon franchiseur, et donc je finis par racheter mon franchiseur à 35 ans, effectivement, quelques années
plus tard. C'est quand même une belle histoire, hein, un beau parcours. David Martins Gonsalves, vous êtes face à cet entrepreneur. Arnaud Brion, on vous a réuni aujourd'hui dans Happy Boulot. D'abord, comment, alors c'est un parcours très différent du vôtre, mais comment vous le regardez ?
Avec beaucoup d'admiration, déjà. Après, on a beaucoup de choses en commun. Je pense le goût de l'aventure, un peu, de l'entrepreneuriat. Et finalement, il y a beaucoup de parallèles, je pense, entre nos parcours et les
Qu'est-ce
raisons.
Qu'est-ce que vous voyez comme similitude?
En gros, le besoin d'entreprendre. Je pense qu'il y a la capacité à apprendre tout au long du parcours, parce qu'en fait, c'est des rencontres. C'est le fait d'avoir... était vendeur d'abord, avoir acquis son premier magasin. Donc c'est l'expérience de l'entreprise, de comment on crée de la valeur, de peut-être des rencontres, peut-être l'envie d'aller plus loin, des nouveaux collaborateurs. Donc je pense que c'est assez lié finalement.
Parce que alors Arnaud, vous parliez d'échecs scolaires. C'est vrai que souvent on entend les patrons, les grands patrons qui n'ont pas fait d'études, qui disent que ça part de là. Hein. On n'est pas bien à l'école, on a envie de faire quelque chose, rentrer directement dans le monde du travail. Et puis quand on s'y plaît, finalement, on peut tout à fait réussir. Vous, David Martins Gonsalves, donc je rappelle que vous êtes le cofondateur de Notify. Vous êtes accro aux études. C'est plutôt l'inverse. Ça fait 12 ans que vous faites des études, tout en étant déjà dans la vie active. Des universités prestigieuses, hein, ça se passe du côté des États-Unis, Harvard, Columbia, le MIT. Vous êtes une espèce d'alcoolique du travail, des études.
Oui, c'est ça.
Ouais.
En gros, l'idée, c'est que... Donc, moi, j'étais pas du tout dans la technologie au départ. Oui. J'ai travaillé pour la Banque mondiale. J'étais consultant. Et bon, pour plein de raisons, j'ai décidé d'être entrepreneur et dans la technologie, dans le développement, donc assez autodidacte à la base. Et puis au bout d'un moment, un peu en panne de bonnes idées, la sensation qu'il me manquait peut-être des connaissances. Donc je décide de reprendre des études. Je vois que Harvard propose l'Extension School. Donc c'est l'accès finalement à des formations un peu prestigieuses, mais à distance, sans arrêter de travailler, avec un investissement financier et humain assez important. Mais finalement, ça rendait quelque chose, je ne savais pas, assez accessible. Et là, je découvre finalement un monde assez passionnant, très lié au monde professionnel. On apprend du concret. On est avec des pairs qui sont assez bienveillants.
C'est pas juste avoir le nez dans les livres, non, c'est trouver tout. Des choses très pratiques pour aussi savoir comment mieux faire émerger sa propre entreprise.
Exactement. Ouais. Là, par exemple, Notify, la société qu'on a aujourd'hui, quand j'ai commencé mes études, ça n'existait pas. Et très rapidement, c'est devenu mon projet d'études. Et le fait de pouvoir finalement challenger Notify avec ses pairs sur place, moi dans ma promotion j'avais des gens du FBI, j'avais des gens de chez Google, j'avais des gens de chez Microsoft, et le fait d'avoir ces personnes qui vous aident à faire évoluer ce projet font que finalement aujourd'hui Notify vient de là, et j'en ai tellement appris que du coup je me suis dit je vais continuer à en faire. Il y a eu d'autres possibilités qui sont arrivées derrière. Donc,
Après, je pense qu'il y a un dénominateur commun.
Oui, trouvons-en, parce que c'est ça aussi qui est intéressant.
Non, mais déjà, je veux dire, la motivation, l'ambition, l'audace, je crois que c'est des dénominateurs communs qui forcément vont nous réunir, puisque quand on a un projet d'entreprise, je veux dire, on sait que c'est un combat de tous les jours, parfois de toute une vie. Ouais. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est très important pour onboarder ses équipes et vendre son projet d'entreprise pendant toute la durée de son mandat d'entrepreneur. Donc ça, c'est très important. Alors après, on a tous des enfants, on en a discuté, et c'est vrai que
parce que vous nous en avez pas parlé là.
Mais je dis à mes enfants, et je souhaite qu'ils fassent, je les encourage à faire des études, à se former, à avoir des bagages.
Ah, c'est intéressant.
Pour
ça.
Pouvoir malgré tout se réaliser. Ben, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est aujourd'hui.
Mais si vos parents vous avaient dit ça?
Mais les parcours sont tous uniques, et ça aussi c'est.
D'ailleurs, c'est un peu intime, mais on est là aussi, on parle de vous. Ils vous ont dit quoi, vos parents, quand vous avez dit j'arrête les études?
Ils étaient pas ravis de cette décision qui pour eux était forcément une mauvaise décision.
Comme vous avec vos enfants.
Comme moi peut-être avec mes enfants, mais en tout cas non. Moi, ce que je souhaite, c'est que mes enfants se réalisent, et que voilà, qu'ils aient accès à leur qu'ils réalisent leur projet.
Oui, David.
C'est une question de timing aussi, pour moi. Alors, nous, c'est Notify, on prêche ça, hein, c'est le perfect timing, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est un moment où vous avez peut-être vous besoin d'abord de faire vos expériences, de travailler, d'apprendre à collaborer avec les autres pour créer ce projet finalement d'entreprise derrière.
Vous recruteriez, vous, chez vous, David Martin, quand ça va chez Notify, quelqu'un qui n'a pas fait d'études?
C'est le cas.
C'est le cas déjà.
C'est le cas dans les équipes techniques.
Et c'est des personnes qui peuvent gravir les échelons?
Oui, c'est des. Ouais. On a
grâce à la formation en interne.
Grâce à la formation en interne. En fait, cette dynamique d'apprentissage, on l'a mis en place en interne. C'est-à-dire qu'on a des formations qui sont disponibles, et nous, le collaborateur, un autodidacte, chez nous, il va apprendre et croître assez facilement.
Vous, Arnaud, pareil. Bon, ça paraît peut-être plus évident quand on pose la question, mais est-ce que vous recrutez quelqu'un qui a un peu le même parcours que
c'est
vous?
C'est assez paradoxal parce que dans la première vie de l'entreprise, j'ai la promotion interne, c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez nous. Et effectivement, chaque collaborateur, connaissant mon parcours, se dit qu'il peut tenter sa chance avec nous. Donc moi, j'ai envie de dire, le premier critère de recrutement chez nous, c'est la motivation et la compétence, plus que les diplômes, c'est quelque chose que je regarde après. Ouais. Alors ensuite, nous, on s'est développé en France, aussi à l'international, et on a toujours plein de projets innovants. Et à un moment donné, je me suis dit quand même que j'avais besoin, une fois que j'en avais les moyens, de m'entourer de gens compétents. Et il faut savoir aussi, quand on est manager, recruter des gens plus brillants que soi sur beaucoup de disciplines. Et ça, c'est important aussi. Et
ça sera la question de la fin que je vous pose simultanément à vous deux. Mais pour conclure, qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui, justement, veut faire carrière? Il n'y a pas de voie royale, en fait. Tout est possible à partir du moment où on a l'envie, c'est ça. Mais le conseil que vous apporteriez, Arnaud?
Non, moi, je dis, il faut aller au bout de ses rêves et au bout de ses envies. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des moyens à délivrer pour y arriver.
Yannick? David, pardon. Yannick, c'est après, j'ai anticipé.
Je vais un peu dans le même sens. Pour moi, il y a une question d'envie. Il faut vouloir Il faut s'engager, il ne faut pas attendre. En gros, il faut bouger. Que ce soit dans un projet professionnel, c'est-à-dire s'engager auprès d'une équipe et d'une entreprise, ou reprendre des études, ou faire les deux en même temps, voilà, c'est une question d'engagement.
Pas d'inertie. Merci beaucoup David Martins-Gonsalves, cofondateur de Notify, et Arnaud Brion, PDG de Finsbury. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche de Yannick Mercieris, rédacteur en chef de The Daily Swile, qui s'adresse aujourd'hui aux dyslexiques. Bah, tiens, vous voyez, moi aussi je suis dyslexique. Trop longtemps sous-valorisé, Yannick.
Happy Boulot, carte blanche.
8 à 10% de la population mondiale est dyslexique. Ça veut dire qu'on en retrouve forcément dans le monde du travail. La pensée dyslexique, c'est quoi? C'est un trouble du langage, donc de l'écriture et ou de la lecture. On a du mal à identifier des mots ou on peut inverser des sons et des lettres. Ça donne quoi au travail? Bah, par exemple, de la difficulté à écrire des mails ou à les lire, ou tout simplement des difficultés pour prendre la parole en réunion. Aujourd'hui, 50% des personnes dites dyslexiques le cachent au quotidien au travail. Et pour 54% d'entre elles, ça peut même être un frein à l'évolution professionnelle. Je vous rassure, ça peut être aussi un avantage au travail. Les personnes à la pensée dyslexique traitent l'information d'une façon différente. Elles ont une capacité à voir des problèmes différents, et donc les solutions qui vont avec. Elles développent des compétences plus fortes en termes de créativité, une écoute plus active ou alors une capacité d'analyse plus forte. Des grands noms recrutent des personnes dyslexiques. La NASA, par exemple, recrute des personnes dyslexiques pour leur habileté à résoudre des problèmes complexe. Faut arrêter d'en faire un tabou et oser le dire et en parler. Depuis 2022, LinkedIn a reconnu la pensée dyslexique comme une compétence. Depuis, 22 000 personnes l'ont ajouté sur leur profil. Alors si vous êtes dans ce cas, pourquoi pas vous?
Happy Boulot, le labo RH.
Allez, il est l'heure de tester l'innovation de la semaine avec vous, Agnès Salazar. Bonjour.
Bonjour, Erwan.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes la cofondatrice de Maria Schools, un campus qui forme les salariés aux compétences clés des entreprises. Typiquement, c'est quoi ces compétences-là?
C'est à la fois les nouveaux comportements, donc comment est-ce qu'on manage, comment est-ce qu'on renonce, comment est-ce qu'on collabore, et les compétences numériques et RSE.
Très bien. C'était très clair. Vous lancez chez Maria Schools la fresque des compétences, conçue avec des grands groupes français. On ne va pas tous les citer, mais on a par exemple Pernod Ricard, L'Oréal, Société Générale, AXA. Il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Ça consiste en quoi?
Ce qu'on a fait avec ces grands groupes que vous citez, c'est de la co-construire. Donc on s'est réunis tous les mois pendant 6 mois. Et on voulait attaquer un problème qui était comment on fait pour que les gens soient fiers d'aller en formation, comment on fait pour donner envie d'apprendre à des collaborateurs qui ont énormément de travail et pour qui la formation est parfois un truc un peu à côté, mais qui n'est pas structurant vraiment dans leur trajectoire.
La formation, pourtant, c'est sur le temps de travail, non?
C'est sur le temps de travail, mais en France, c'est à peine 20% qui se forment tous les ans.
Et pourquoi? C'est vraiment parce qu'on est débordé?
Parce qu'on est probablement débordé, parce qu'on n'a peut-être pas conscience que c'est aussi important. Pour autant, tout le monde est quand même très anxieux de voir les métiers qui s'automatisent, les compétences, on dit qu'elles sont obsolètes de plus en plus rapidement. Donc d'un côté, en fait, l'entreprise va de plus en plus vite et demande de plus en plus à ses collaborateurs, et de l'autre, elles n'accompagnent pas forcément toujours assez la réinvention des savoir-être, des savoir-faire
Mais de leurs salariés. Petite parenthèse, Agnès Salazar, est-ce qu'on n'a pas aussi parfois dans certaines entreprises l'idée que, en fait, quand on envoie un salarié en formation, bah, il est absent pendant quelques jours et il faut le remplacer?
Oui,
et
mais
parfois,
ça, c'est quand
on n'est pas organisé.
Oui, bien sûr, ça, c'est un peu quand on va considérer que la formation n'a pas une performance pour l'entreprise.
Et les mentalités changent là-dessus?
Ça commence un petit peu à changer aussi parce que la formation, en fait, elle doit elle-même se transformer. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Maria, d'apporter une autre manière de se former qui, précisément, à la fois permet l'épanouissement personnel, mais aussi la performance.
Votre formation, elle est basée sur la pédagogie Montessori.
Exactement.
On connaît pour les enfants, mais qu'est-ce que ça veut dire alors pour des adultes?
Pour les adultes, ça veut dire qu'on va chercher dans les principes Montessori des choses qu'on trouve formidables, comme le plaisir d'apprendre, la joie, le travail collectif, mais aussi la pratique. En fait, Montessori, les enfants, ils apprennent en travaillant la terre. Ben, nous, les adultes, on leur permet d'apprendre en mettant les mains dans le cambouis vraiment, et pas simplement en mobilisant leur cerveau. C'est-à-dire en faisant des exercices, en s'entraînant, en faisant vraiment, pas simplement en comprenant. Donc, on mobilise le corps, l'esprit, et ça permet vraiment d'apprendre.
Mais c'est pas ludique, c'est pas du jeu aussi, où il y a une part de jeu.
On peut s'amuser en travaillant. On peut prendre plaisir en apprenant. Et donc, bien sûr que c'est du travail. Mmh. Donc, c'est parfois difficile. Mais c'est aussi un moment où, en fait, on se rend conscience de ce, on prend conscience de ce qu'on est capable de faire. Et donc, en fait, c'est très plaisant. Et c'est ça, la fresque, en fait. C'est oui. prendre conscience de ses compétences, se rendre compte qu'on est capable de faire et se projeter. Voilà.
Et c'est sous forme d'atelier?
Exactement. La fresque, c'est un atelier de 3 heures mmh. qu'on fait avec son équipe. Donc, le manager et ses managers. Animé par un fresqueur, et on dresse l'arbre des compétences de l'équipe, tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on doit développer comme compétences.
3 heures, c'est court, non réussir. Et qu'est-ce qui se passe après cette
phase? À l'issue de l'atelier, on a un plan d'action, on a compris tout ce qu'on avait déjà en nous, tout ce qu'on a, toutes nos forces, toutes nos compétences en tant qu'équipe, donc c'est ouais. très positif. Et puis on est prêt à se projeter, à se dire ok, bah maintenant notre plan d'action c'est quoi? Quelles sont les compétences qu'on doit développer pour réussir nos objectifs?
Pour les entreprises qui nous écoutent, aussi bien salariés que chefs d'entreprise, comment on fait appel à vous si on veut tester cette méthode?
Le site internet mariaschools.com et ensuite on répond très rapidement.
Très simple. Et voilà. J'imagine que vous donnez tous les détails, combien ça coûte, etc. Enfin, on entre en contact avec vous pour avoir toutes ces informations. Merci beaucoup, Agnès Alazard. Merci d'avoir été notre invitée cofondatrice de Maria School. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission, bien sûr, en podcast dès maintenant et en replay sur la plateforme RMC BFM Play. Merci à Flo et Alban en régie. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission, des nouveaux sujets, des nouveaux invités. On reste en contact sur notre adresse mail. Elle s'affiche en bas de l'écran, happyboulot@bfmbusiness.fr. D'ici là, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.